On va parler des films qui sortent, Laurent. On va commencer par Un couteau tiré de Rian Johnson. Célèbre auteur de polar, Harlan Shombay est tombé mort et retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. Le détective Benoît Blanc, c'est Daniel Craig, est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes. On sait assez vite qui a tué Laurent et comment, mais le secrétaire, le film a plusieurs tiroirs. Beaucoup d'Agatha Christie et un zeste d'Hitchcock.
Mais oui, un enquêteur, une famille, un manoir, une mort mystérieuse, un romancier, un héritage, une infirmière, une centenaire, un fils, une fille, une belle-fille. C'est curieux comme le polar a souvent l'unicité comme clé de voûte de ces histoires alambiquées. Ce film aurait pu exister il y a 25 ans, peut-être existera-t-il d'ailleurs dans 25 ans aussi, enfin une autre façon, parce que c'est des films qu'on a déjà vus, qui se basent effectivement sur Agatha Christie. Alors tout ça est absolument léger, absolument plaisant, absolument insignifiant au sens propre du terme, et donc ça n'est pas méchant que de le dire, c'est juste, ça n'a pas d'autre sens, d'autre volonté que effectivement de nous distraire comme on tourne les pages rapidement d'un bon roman policier. Voilà, c'est pas plus, pas moins que ça. Ça s'appelle À couteau tiré.
The Irishman sur Netflix. De quelle couleur sont les yeux de Robert De Niro? Moi, jusqu'à présent, pour moi, ils étaient marrons. Alors pourquoi Martin Scorsese lui a mis des lentilles bleues dans The Irishman? Eh bien, parce qu'il incarne un Irlandais, ça c'est un peu cliché, mais surtout ses lentilles lui donnent un regard vitreux, presque mort. Donc c'est plus vraiment De Niro, sans parler du rajeunissement artificiel dans ce film qui ne sied véritablement qu'à Al Pacino, même avec maquillage et perruque, c'est le plus remarquable de tous. Dans cette histoire de 3h30, il est Jimmy Hoffa, le grand leader syndical des conducteurs routiers. Dès qu'il apparaît, le film prend une autre dimension, un relief, et quand il disparaît, on regrette sa présence, sa faconde, ses coups de gueule, c'est lui le centre de gravité sans lequel cette histoire n'existerait pas, même si elle est racontée par De Niro, qui se souvient. À travers Hoffa, Scorsese ausculte l'histoire noire de l'Amérique, l'appui de la mafia dans l'élection de Kennedy, dans son meurtre, et celui de Hoffa sur la campagne de Nixon, plus la baie des cochons, le Watergate, la mafia partout, mais pour la première fois de façon politique chez Scorsese. Ça, c'est l'effet, l'aspect le plus passionnant de ce film. L'autre thème, c'est le regret, celui de De Niro, enfin de son personnage, de n'avoir pas su empêcher ces terribles événements, mais le regret et la tristesse aussi pour nous, spectateurs, devant notre tout petit écran, de rater l'ampleur de la mise en scène scorsésienne. C'est un film en ligne et pas en salle sur Netflix. Vous l'avez vu, Elia Souleymane? Vous l'avez vu sur grand écran, ce qui n'est pas pareil du tout.
Yes.
Et alors?
I liked very much.
J'ai beaucoup aimé.
Vous avez vu un autre film, en fait? Vous avez vu un autre film que le mien?
Non. I can say that it's the same film, it's just you don't watch at all when you watch on the small screen.
Non, mais voilà. C'est le même film, mais sur ce petit écran d'ordinateur, on ne regarde
You're
pas, en fait.
Touched,
on n'est pas ému, il n'y a rien de tendre dans ces petits écrans d'ordinateur.
Voilà, c'est dit, et tout le monde va le voir comme ça. Chanson douce, Lucie Borloteau, Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge, ils engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place centrale dans la famille, mais très vite, les réactions de Louise deviennent inquiétantes. Le film est adapté, on le sait, du prix Goncourt en 2016. Mais ce qui est énoncé dès le départ dans le roman, elle commet un infanticide, devient un suspense dans ce film. Et cela change pas mal la donnée, Laurent.
Oui, alors le film à l'origine devait être fait par Mai Wen. Elle est encore créditée d'ailleurs au scénario, au générique du film. Qu'est-ce que Lucie Borloteau vient faire dans cette galère? Je ne comprends pas très bien, parce qu'on avait été sous le charme de son premier film, souvenez-vous, qui s'appelait Fidelio, avec Ariane Labed, et là, moi, je n'ai rien retrouvé de son univers si singulier qu'elle mettait si bien en place dans ce premier film. Elle aussi, entre le film, en tous les cas, aussi en permanence entre Chabrol et Haneke, ou Les blessures assassines de Jean-Pierre Denis, merveilleux film sur l'affaire des sœurs Papin, elle ne choisit pas. La dangerosité de Karine Viard, mais clignote comme un sapin de Noël dès les premières images du film, donc ça casse quelque chose de façon trop évidente. Bref, on est devant un objet dans lequel on ne rentre absolument pas. Et on se dit vivement, vivement, vivement le troisième film de Lucie Borloteau.
Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay, Sarajevo, novembre 92, 7 mois après le début du siège, le reporter de guerre Paul Marchand nous plonge dans les entrailles d'un conflit fratricide, sous le regard impassible de la communauté internationale, entre son objectivité journalistique, le sentiment d'impuissance et un certain sens du devoir face à l'horreur, il devra prendre parti. Rares, très rares sont les bons films, sans clichés sur les reporters de guerre, celui-là inspiré d'une histoire vraie, celle de Paul Marchand donc, tête brûlée, sans l'authenticité à tous les coins de plan, des scènes vives, justes, dramatiques, cash pour exprimer la folle vie de ces reporters et surtout sur le terrain miné, rongé par les morts quotidiennes. Guillaume de Fontenay sera l'un de nos invités samedi prochain. En attendant, allez voir ce film Sympathie pour le diable. Indianara, Laurent, c'est un documentaire signé Aude Chevalier-Baumel et Marcello Barbosa. Dans un Rio en ébullition, la colère gronde. Indianara, révolutionnaire hors normes, mène avec sa bande un combat pour la défense des minorités et la survie des personnes transgenres au Brésil.
Oui, bah, c'est une très très belle personne, comme on dit, cette grande gueule absolument militante. Le documentaire mêle son parcours singulier avec évidemment un combat qui est forcément universel. Les deux choses sont mêlées, sont étroitement mêlées. Alors il n'y a pas de commentaires, pas d'interview. On suit cette femme en permanence. Ça veut dire que c'est une forme documentaire un peu trop classique, un peu trop contenue pour dire quelque chose d'autre. C'est-à-dire pour donner envie de suivre presque cette femme. C'est ce léger hiatus entre le fond et la forme qui fait qu'on n'adhère pas complètement, mais en même temps on est transporté par l'allant de cette femme.
L'orphelinat de la réalisatrice Charbanu Sadat, adapté des cahiers intimes de son cousin. C'est à Kaboul, fin des années 80. Le jeune et débrouillard Kodrat gagne sa vie en revendant des tickets pour aller voir les films bollywoodiens préférés. Donc rattrapé par la police, il se retrouve à l'orphelinat. En fait, l'arrivée des Moudjahidines après l'invasion soviétique, et c'est une façon très originale de raconter une secousse historique via un orphelinat, via l'éducation et via l'État, Laurent, sachant que ce petit garçon aussi rêve grâce à ses comédies de Bollywood.
Oui, c'est ça, je trouve, c'est presque le plus intéressant du film. Il y a trois grandes chansons bollywoodiennes dans le film, et Dieu sait si ces chansons, on le sait, sont entraînantes. Enfin, les films de Bollywood, c'est merveilleux pour ça. Et évidemment, c'est en total contradiction avec ce que montre le film des réalités afghanes entre la période communiste et la période qui a suivi des Moudjahidines. Et cette plongée dans le film de Bollywood, dans les films de Bollywood, dans les chansons, dans l'univers chamarré, coloré de Bollywood, tout en contraste par rapport à ce que vit ce petit garçon, ça c'est très très beau et ça rend le film encore plus intéressant.
Ouais, puis l'orphelinat. Il y a cette scène folle où il passe effectivement du régime soviétique au Moudjahidine. Oui. Ils doivent brûler tous les livres.
Tous les livres.
Très impressionnant. Ouais. Des reprises. Ah ça c'est un sacré film, L'âme des guerriers de Lita Maori.
Oui, absolument. C'est en Nouvelle-Zélande, c'est à Auckland et c'est dans une communauté maori dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est très très violente, bousculée. Enfin voilà, c'est un film très âpre. L'âme des guerriers. Autre âme. Celle l'a perdue avec S'il vous plaît Gassman et Deneuve. C'est en 1976 devant la caméra de Dino Rizzi. Film crépusculaire, très beau film. Et puis un autre mélo absolu de Frank Borzage en 1948. Ça s'appelle Moonrise, le fils du pendu en français. Là aussi, c'est noir, flamboyant et mélo à souhait.
Les cadeaux pour nos invités, Laurent.
Mais oui, le premier cadeau, alors ce sera pour Alice Vinocourt. On a pensé que la cinéphile qu'elle est, elle aimait bien Fellini. Alors trois Fellini. Sinon rien, Il Bidonne, Les Clowns, Prova d'Orchestra, s'il vous plaît. C'est au Pacte. Il y a des très beaux bonus faits notamment par notre confrère Aldo Tasson. C'est trois Blu-ray, je le répète, au Pacte. Et on vous les offre avec plaisir. On les recommande chaudement, évidemment,
merci
à nos
beaucoup.
Auditeurs. Et puis pour vous, Elia Souleyman, vous ne découvrirez pas ce cinéaste, mais je pense que comme nous, vous le revoyez plaisamment. Il s'appelait Youssef Chahine. Et ce sont 9 films de 1954 à 1979, sous-titrés La Complainte égyptienne. On y trouve notamment des chefs-d'œuvre comme Gare Centrale ou bien Alexandrie. Pourquoi ? Plus de 2 heures de bonus, un livret. C'est un très beau coffret qu'on recommande chaudement à nos auditeurs. Et c'est chez Tamaza. On est heureux de vous l'offrir. Merci Elia Souleyman.
Merci à vous.
Il y avait un homme en commun entre vous deux, c'était le grand producteur.
Exactement.
Humbert Balzan.
Voilà.
Humbert, le grand, le beau et talentueux et magnifique Humbert Balzan.